Radio Bark, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Bark, 8e saison quand même, 2e partie. Bonjour Alain Perea.
Bonjour.
Rappelons que vous êtes le député, alors député de l'Aude, j'allais dire député de la Narbonnaise, et bon, peut-être on verra si j'avais entièrement tort ou quoi. En tout cas, député de l'Aude, c'est ça qui est officiel.
Oui, effectivement, député de l'Aude, et si on veut même être puriste, c'est député de la nation, puisqu'on doit toujours prendre des décisions en fonction de l'intérêt de la nation et non pas de sa circonscription. Mais moi, je suis toujours sur le fil du rasoir. Je pense qu'on va en reparler.
Oui, oui, oui. Parce qu'il y a la théorie et puis il y a la pratique là-dessus, soyons clairs. Alors, ça fait maintenant un peu plus de 4 ans que vous avez été élu député dans le sillage de l'élection présidentielle de M. Macron. Donc, alors, vous êtes député, ce qu'on appelle la République en marche, hein, macronien, macroniste, comment on dit
Alors, nous avions le campus, c'est vraiment d'actualité, nous avions le campus ce week-end et on s'achemine vers un mouvement qui serait la fameuse maison commune dans lequel il va y avoir le MoDem de François Bayrou, le mouvement politique de Édouard Philippe qui va lancer sûrement la semaine prochaine et d'autres. Et donc, on va partir autour sûrement d'un mouvement qui va s'appeler majorité présidentielle.
Oui, voilà. Donc il y aura plus de EM, Emmanuel Macron en marge, de choses comme
Alors,
ça.
Alors tout ça est en cours de discussion, mais majorité présidentielle me semble être un bon choix, puisque nous sommes derrière à la fois le président, et puis je le rappelle, nous avons toujours défendu l'idée de ne pas être un parti politique comme les autres. Il ne faut pas critiquer sans cesse les partis politiques, ça a des défauts et ça a un certain nombre de qualités, mais le fait d'être un mouvement différent, et notamment donc d'être cette maison commune où on va réunir, ben, l'idée c'est d'être capable d'aller chercher partout où il y a des bonnes idées et peut-être laisser à l'extérieur de cette maison commune ceux qui veulent que la France ne bouge pas ou même voire recule sur certains dossiers.
Alors on reviendra très probablement sur ces analyses-là, Alain Perea, mais tout d'abord une première question. Certes, c'est dans 8-9 mois l'élection, mais avez-vous envie de repartir?
Alors l'élection sera le 12 et 19 juin, si je ne me trompe, élection
législative.
Élection législative. Alors la réponse convenue que je ne vais pas vous faire, c'est de vous dire je suis au travail et le temps de l'élection viendra et je n'y pense pas. Voilà, il y en a marre de cette façon de faire. Et puis les Narbonnaises et les Narbonnais qui me connaissent savent que je ne fonctionne pas comme ça. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Monsieur le député, est-ce que vous allez vous représenter ?» Certains le posant la question en espérant que je reparte, et d'autres posant la question en espérant que je ne reparte pas.
Oui, bien entendu.
Voilà,
donc, il y a les deux sons de cloche.
Il y a les deux sons de cloche. Et je leur réponds que, effectivement, j'aimerais m'inscrire dans la durée sur au moins 2 mandats, parce que il y a encore des chantiers à terminer, il y a encore des choses à faire. Voilà. Donc, je ne suis pas à ce micro pour faire une annonce officielle, je ne suis pas à ce micro pour dire quand je lancerai ma campagne et autres, mais vous me posez la question, et en toute sincérité, je vous réponds que je m'inscris dans la continuité et je ferai le maximum pour faire un deuxième mandat.
Alors, c'est le moment quand même, peut-être pas de faire des bilans, mais en tout cas quand même de se retourner, de voir le chemin parcouru. Quel est votre premier réflexe là-dessus? Quand vous vous retournez, vous dites, voyons, où en suis-je?
Alors, c'est l'heure des bilans. Hein. C'est quand même l'heure des bilans. Et moi, je me souviens être venu à votre micro, même quand j'étais candidat, ou tout à fait au début, quand j'étais venais d'être élu. Et on avait pris un engagement, c'était un contrat avec la nation, et ce contrat avec la nation, c'était de mettre en œuvre notre programme. Et contrairement à ce qui s'est passé depuis maintenant plusieurs mandats, eh bien, nous avons, malgré les crises que nous avons subies, crise Covid, crise des Gilets jaunes, crise des manifestations diverses et variées, crise internationale aussi, eh bien nous avons mis en œuvre plus de 90% de notre programme. Et donc quand je me retourne, je me dis, nous avions pris des engagements, c'était de mettre en œuvre notre programme. Beaucoup de gens nous ont dit, non, mais ça il faut pas le faire et tout ça, mais à la fois ils n'avaient pas voté pour nous. Donc forcément, ils étaient habitués. Oui. Ils étaient habitués que par le passé, au moindre mouvement, au moindre saute d'humeur, on fasse un pas en avant et 2 pas en arrière. Et nous avons déroulé notre programme. Moi, je maintiens l'idée que nous avons été à l'écoute, que nous avons rencontré du monde. Ma permanence a toujours été ouverte. Quand il a fallu aller au Palais du Travail rencontrer les cheminots, ben je suis allé au Palais du Travail rencontrer les cheminots. Ça a été des réunions difficiles pour eux, pour moi, mais nous avons pu discuter. J'ai toujours gardé le dialogue. Et quand les Gilets jaunes sont venus, j'ai reçu des délégations autant que de besoin. Donc nous avons à la fois mis en place notre programme et nous avons gardé le dialogue. Et au final, le plaisir, c'est pas de dire nous avons réussi notre programme. Le plaisir, la réussite, c'est que le taux de chômage est un des taux de chômage aujourd'hui, un des plus bas que la France ait connu depuis de nombreuses années. Que les chiffres de l'économie montrent que nous sommes dans une dynamique économique sans précédent depuis de très nombreuses années. Et que nous allons rentrer là, puisque je travaille beaucoup à l'international, nous allons rentrer là au 1er janvier avec la présidence de l'Union européenne et que tous les pays se tournent vers la France en disant nous attendons beaucoup de la France au niveau national et au niveau international, parce que la France a repris une position dans le concert international qu'elle avait perdue. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, parce que certains vont se dire, il oublie. Je n'oublie pas que cette crise-là des sous-marins australiens ont écorché l'image de la France. Mais il n'empêche que si tout le monde s'est mobilisé, si tout le monde a fait attention à ce que disait la France sur ce dossier-là, c'est tout simplement parce qu'on pèse. Voilà. Et donc, un bilan, des résultats concrets, chiffrer des relances et au final une place de la France dans le concert européen, dans le concert mondial qu'elle n'avait pas eu depuis très longtemps.
Alors vous dites, Alain Perea, que vous estimez avoir rempli à peu près ou appliqué 90% de votre programme. Il y a quand même des choses importantes qui n'ont pas été faites. Par exemple, la réforme des retraites. Et on y reviendra peut-être d'ailleurs dans une troisième partie. Ça fait partie des grosses réformes prévues. Et peut-être des plus utiles également pour l'avenir. Bon, elles n'ont pas, pour tout un tas de raisons, peut-être les raisons essentielles à votre avis, c'est plutôt la conjoncture, les événements, cette succession d'événements imprévus qui font que les circonstances n'étaient pas favorables à lancer ce débat.
Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, je crois que notre pays, dans cette sortie de crise, a besoin aussi de se poser. Alors quand je dis notre pays, c'est toutes ses composantes, bien sûr, les Françaises et les Français, qu'ils soient favorables ou qu'ils ne soient pas favorables à cette réforme. Et donc on a besoin de se poser, on a besoin de nous retrouver, on a besoin aussi d'avoir un petit peu de détente, mais au sens d'étendre l'atmosphère. Et on savait très bien que ce dossier était un dossier qui allait tendre. Et donc, on a été nombreux à faire remonter un petit peu cette sensation des territoires. Moi, je me souviens d'un ami qui me dit « Alain, je te soutiendrai pour tes prochaines candidatures si tu étais candidat, mais avec la réforme des retraites, ce sera difficile si vous la faites maintenant. » Et donc, tout ça, on l'a bien entendu. Et voilà. Après, moi, je suis intimement convaincu, mais le jour viendra où on viendra défendre cette réforme-là, quand on parlera d'un autre programme. Et si je suis réélu, je reviendrai en parler aussi. Et donc, le jour viendra où on reparlera de tout l'intérêt, de toutes les subtilités de cette réforme. Parce que le combat sur la réforme des retraites a été gagné sur une médiatisation de choses qui n'étaient pas vraies. Et tous les bons messages qu'il y avait dans cette réforme ont été balayés autour de tout ça. Donc, on y reviendra. Mais la réforme des retraites, moi, j'ai pas honte de dire qu'il faudra y aller. Et de toute façon, quel que soit le président ou la présidente qui soit élu, elle ira, donc ne nous mentons pas.
Oui, on est quand même sur un régime de retraite qui comporte de grandes, comment dire, inéquités avec des régimes spéciaux qui sont parfois difficiles à expliquer.
Oui, il y a la question des régimes spéciaux, mais plus que les régimes spéciaux, c'est que toute Française et tout Français a du mal à comprendre comment est calculée sa retraite. Le système de régime actuel n'est pas adapté à la nouvelle façon des Françaises et des Français d'aborder la question du travail. Nous sommes dans une logique où nous voulons aussi que les Français, s'ils ont envie de s'arrêter pendant un an pour se reformer, pour changer de métier, ben tout ça, ça doit pouvoir être pris en compte. Et le système actuel est un système qui est, à mon sens, complètement démodé. Je l'avais même eu dit dans une intervention dans l'hémicycle. On fait des études, quelle qu'en soit la longueur, on rentre dans un métier, on ne rêve que d'une chose, c'est de faire toute sa carrière dans le même métier, dans la même boîte, dans la même institution, Et puis on partira à la retraite, hein, et puis on sera, voilà.
Mais ça, c'est une vision un peu surannée.
Eh bien oui, c'est une vision surannée, sauf que moi, vous savez, en étant à La République En Marche, je suis au milieu dans l'hémicycle. Eh bien, tout mon flanc gauche, c'est ce qu'il raconte. Voilà. Il raconte ça, c'est que la vie des Français, j'étais même intervenu sur une intervention de la France Insoumise, qui disait que le fait d'avoir la retraite était quelque chose qui motivait les jeunes à rentrer à la SNCF. Voilà. Ben moi j'avais dit qu'il était insultant, c'était insultant de dire ça, on peut le retrouver sur les réseaux sociaux, de dire qu'un jeune, qu'il soit ingénieur ou qu'il ne soit pas ingénieur, quand il rentre à la SNCF, il rentre pour sa retraite. Voilà. C'est insulter tous les gens qui travaillent à la SNCF, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Mais ils le disent dans l'hémicycle.
Oui, pourtant ça donne pas une image très flatteuse de l'entreprise et de son dynamisme.
Mais tout à fait, et donc voilà, on est là sur des sujets sur lesquels il faudra revenir sereinement. Voilà, il y a pas longtemps, je rencontrais un militant socialiste qui me disait, Alain, moi je viens de partir à la retraite, je suis encore jeune, j'aimerais pouvoir faire 2-3 ans de travail comme ça, déclaré et tout. Et il me dit, si je travaille comme ça, eh bien je ne gagnerai aucun point pour la retraite puisque je suis déjà à la retraite et donc je ne gagnerai pas 10, 20, 30 ou 50 euros de plus. Voilà, ben ça c'est le genre de choses qu'on pourrait faire évoluer dans cette réforme des retraites qui aujourd'hui est complètement c'est pas possible. Et ben moi je trouve que dans une belle réforme on pourrait le faire. Mais il y a tellement d'autres réformes à faire. On en a parlé en antenne. Il y a tellement d'autres réformes que on va faire un beau programme. On travaille là et ça va avancer.
Un tout dernier point avant de marquer une pause. Parmi les choses que en tout cas pour certains vous n'avez pas du tout réussi, c'est votre implantation locale. À chaque élection locale, municipale, départementale, régionale, La République En Marche n'a pas brillé.
Alors, d'abord, dire le contraire, ce serait mentir. Voilà, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Mais j'ai aussi envie de poser la question. Quel mouvement politique a réussi un ancrage local autre que celui qui était le sien? Parlons du Parti Socialiste puisqu'ils sont majoritaires. Ils ont gagné combien de départements? Ils ont gagné combien de cantons qu'ils n'avaient pas? Ils ont gagné combien de régions qu'ils n'avaient pas? Et à l'inverse, les Républicains, est-ce qu'ils ont gagné plus de régions, plus de départements, plus de tout ça? Non. On voit bien que dans toutes ces élections, il y a eu une reconduction, alors pour différentes raisons que des sociologues, des politologues ont analysé 50 000 fois, mais on voit bien qu'il y a eu une reconduction des personnes qui étaient en place. Voilà. Donc moi, je le regrette profondément. Je pense que la démocratie, c'est aussi l'alternance. La démocratie, c'est aussi le débat. Le fait de faire ces élections pendant des périodes de Covid, eh bien, ça n'a pas forcément permis un certain nombre de choses. Mais quand même, voilà. Mais puisque vous me posez cette question, je voudrais aussi, parce que beaucoup d'auditeurs ne le savent pas, c'est que les élus départementaux et régionaux qui viennent d'être élus là, ont été élus pour 7 ans. Et donc, ils vont connaître 3 présidents de la République. Alors, il ne vous a pas échappé que moi, j'espère qu'ils connaîtront encore une fois Emmanuel Macron, puis un autre, puisqu'il ne pourra pas se représenter. Mais aujourd'hui, quand vous êtes élu conseiller départemental ou conseiller régional, eh bien, vous allez voir passer 3 députés, 3 présidents de la République. Et donc, il y a quand même des questions à se poser sur la décentralisation, parce que ces féodalités locales, moi, m'interroge beaucoup.
Oui, alors ce sont des septennats, finalement, au bout du compte, pour des raisons de
calendrier.
De calendrier, en fait,
de calendrier puisqu'on ne peut pas faire des élections régionales ou départementales la même année que les élections présidentielles.
Que les présidentielles.
Comme on n'a pas le droit de reculer les élections présidentielles, eh bien, les élections départementales et régionales seront reculées de 1 an. Donc d'habitude, ça dure 6 ans. Et donc là, ça va durer 7 ans. Donc là, ils ont connu Emmanuel Macron président. Bon, je veux le dire, mais ils connaîtront Emmanuel Macron la prochaine fois. Je peux me tromper, mais je l'espère. Pas me tromper. Et ils connaîtront encore un président. Et donc, on se rend compte quand même qu'on a des gens là qui sont dans un fauteuil, qui se permettent de dire un certain nombre de choses dans la presse, sur les réseaux sociaux et autres, en toute tranquillité. Ils ont 7 ans devant eux. Ils peuvent critiquer comme ils veulent. Ils savent que de toute façon, avant de retourner devant les électeurs, ils vont avoir du temps. Et donc là, il y a quand même des choses à réinterroger, et moi, dans le prochain mandat, c'est un des combats que je vais mener, parce que il y a vraiment un problème avec la décentralisation dans ce pays.
Vous avez raison de le souligner, parce que c'est assez cocasse, effectivement, de voir la naissance et la prolifération, en quelque sorte, de ces nouveaux septennats. On marque une première pause, Alain Perréand.
Merci.